Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les géants de l'économie numérique mondiale n'ont jamais été aussi puissants, surtout depuis la pandémie de Covid-19. Ils sont partout et pourtant, les regards de leurs dirigeants sont aujourd'hui tournés vers un seul endroit. Bessemer, c'est en Alabama, un état du sud des États-Unis. C'est là que se trouve un entrepôt du géant du commerce en ligne Amazon et c'est là que plus de 5000 employés finissent de voter pour savoir s'ils vont créer un syndicat. Ce serait une première dont Amazon n'a manifestement pas envie du tout. Pourquoi les géants du numérique craignent-ils les syndicats? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont avec nous aujourd'hui par téléphone. Distanciation oblige, restez prudents tous. Donna Kesselmann, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris-Est-Créteil, sociologue du travail et spécialiste des droits sociaux et du travail aux États-Unis. Et aussi Patrick Singolani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Institut Humanité, Sciences et Société de l'Université Paris-Diderot. Auteur de La précarité au PUF, Révolution précaire aux éditions La Découverte et votre prochain ouvrage, La colonisation du quotidien dans les laboratoires de la production post-industrielle, paraît aux éditions Amsterdam au mois de mai prochain. Et enfin, Benoît Berthelot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au magazine Capital et auteur du livre Le Monde selon Amazon, que l'on peut trouver en poche chez J'ai lu. Donna Kesselmann, on va commencer avec vous pour essayer de comprendre de quoi on parle. Vu d'un pays comme la France, où les droits des syndicats sont globalement plutôt respectés et protégés, ça peut paraître étonnant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le processus qui a commencé il y a quelques semaines déjà et qui s'achève aujourd'hui ?
Le processus de syndicalisation aux États-Unis, déjà c'est un processus de syndicalisation en deux temps, le seul pays du monde. Il faut déjà gagner le droit d'avoir un référendum syndical. Il faut que 30% des travailleurs signent pour demander un référendum syndical. Puis le NLRB national organise un référendum où 50% doivent voter pour avoir un syndicat représentatif. Et pendant ce temps, il est tout à fait autorisé que l'employeur organise des réunions obligatoires où ils peuvent proférer des menaces où et des propos antisyndicaux, etc. Donc c'est un pays qui est traditionnellement antisyndical à tous les égards, et surtout dans le sud, désert du syndicalisme.
Oui, il y a une longue tradition, peut-être qu'on va en parler un peu avec vous, développer là-dessus, une longue tradition de l'anti-syndicalisme aux États-Unis, voire de briser des grèves.
Absolument, il y a une industrie très prospère qui est spécialisée pour casser le dos des syndicats. Et par exemple, aujourd'hui, Amazon est en train de payer des dizaines de milliers de dollars à une entreprise pour essayer d'arrêter, d'empêcher ce syndicat actuellement.
Patrick Singolani, je disais qu'en France, les droits des syndicats sont globalement plutôt respectés et protégés. Est-ce que c'est aussi le cas dans les entreprises du numérique en France ?
De toute façon, pour revenir plus précisément et pour vous répondre sur la question, en tout cas d'Amazon, on a vu quand même, en tout cas en termes de transgression des droits, finalement l'entreprise avait une pratique de transgression assez importante. Enfin, ne serait-ce même qu'au niveau de la question du Covid et de la situation sanitaire dans les entreprises, les syndicats se sont mobilisés, y compris le gouvernement, et sont intervenus de manière effectivement à contester finalement une promiscuité, une proximité, un non-respect des gestes barrières et de la distance surtout. Donc on peut dire que ce type de capitalisme, ce type de fonctionnement passe au niveau de l'impôt, passe à divers niveaux de son fonctionnement par des formes de transgression qui vont bien au-delà d'ailleurs de la question du syndicalisme en tant que tel.
Benoît Berthelot, est-ce qu'Amazon aborde la question syndicale partout de la même manière, ou est-ce qu'on s'adapte un peu plus davantage aux lois locales pour une entreprise mondiale comme celle-ci ?
L'idée de base est vraiment la même partout dans le monde, effectivement, et c'est un anti-syndicalisme vraiment fermement ancré dans la culture de l'entreprise depuis ses débuts. Le message central d'Amazon, en gros, c'est de dire notre communication est tellement bonne entre les directions des différents entrepôts et les salariés qu'on n'a pas besoin de syndicats qui se mettent en travers de cette communication. Évidemment, ça c'est l'avis d'Amazon, mais ils ont partout cette politique qui est de lutter activement contre l'établissement de syndicats avec des méthodes qu'on retrouve effectivement d'un entrepôt à l'autre partout dans le monde. On a entendu parler pour l'entrepôt dans l'Alabama de tracts qui étaient distribués par Amazon, de SMS qui étaient envoyés aux salariés, mais aussi d'affichettes placées dans les toilettes, y compris des salariés, disant voilà, ne votez pas pour le syndicat. Et ça, j'ai pu le voir dans des entrepôts français aussi, effectivement, même au-dessus des urinoirs, vous avez des tracts, des affichettes posées par l'entreprise. Dès qu'un syndicat va tracter, le lendemain, Amazon distribue ses propres tracts. Ça se voit quand même dans pas beaucoup d'autres endroits, je pense. Et il y a cette logique, effectivement, de lutter contre l'apparition des syndicats, de former les managers pour éviter qu'ils s'établissent. C'est ça la logique partout dans le monde, effectivement.
Donna Kesselman. Allez-y.
Il y a quelques autres choses qui ont incité la situation. Premièrement, c'est la première usine qui a fait grève aux États-Unis contre les conditions sanitaires insuffisantes à cause du Covid. C'était une usine Amazon dans l'État de New York, donc y compris le manque de respect a vraiment incité ce genre de choses. Deuxièmement, les entreprises de la Silicon Valley sont férocement antisyndical, ils l'ont affiché, ils disent que c'est contre leur modèle économique, c'est vrai de Uber, c'est vrai d'Amazon, c'est vrai de toutes ces entreprises. Et troisièmement, je pense qu'on reviendra, ce qui était très important, c'est que cette lutte des Noirs dans cette usine dans le Sud est devenue emblématique et symbolique partout contre les inégalités raciales et socio-économiques aux États-Unis. C'est un moment important.
Alors, j'allais vous demander, Donna Kesselman, et vous avez un peu répondu, si c'est difficile de créer des syndicats dans aux États-Unis, mais une fois que c'est fait, une fois qu'on a passé tous ces obstacles, est-ce qu'on peut dire que ces syndicats sont puissants ? Qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire une fois qu'ils existent au sein d'une entreprise ?
Ah ben déjà, il n'y a que 10% des travailleurs qui sont syndicalisés aux États-Unis aujourd'hui, et dans le secteur privé, il n'y a que 6%. Et après, quand on gagne un référendum syndical, il y a un syndicat qui a un monopole syndical, voulant dire qu'il a le droit de négocier. Or, et vous posez vraiment la bonne question, c'est qu'il n'y a que dans 50% des cas, déjà, si on arrive à imposer ce syndicat contre tous les obstacles, il n'y a que dans 50% des cas où on aboutit réellement à un accord négocié. Hein, parce que c'est un syndicat représentatif pour négocier une convention collective. Donc c'est vraiment, c'est très difficile d'arriver à imposer le droit syndical ou des droits sociaux aux États-Unis.
Patrick Singolani, c'est donc très difficile de créer des syndicats dans ces entreprises, et par facilité de langage, je vais dire ces entreprises ubérisées, c'est difficile particulièrement parce que dans ces entreprises, la main-d'œuvre en général n'est pas salariée. C'est ça qui pose la difficulté principale.
Alors effectivement, en l'occurrence, justement, le modèle économique d'Amazon l'oblige à avoir des salariés et finalement avoir une présence de salariés. Je vais y revenir. Mais effectivement, le modèle économique est celui qui apparaît finalement dans la logique d'un capitalisme de plateforme, que ce soit Uber ou que ce soit certains aspects d'Amazon. Je pense par exemple à Amazon Mechanical Turk, qui est en fait une structure de tâcheronnat numérisée à travers le monde, et plus particulièrement à travers le monde anglo-saxon. Donc sont des formes où effectivement la question du salariat n'apparaît pas, puisque c'est la figure de l'indépendant qui est dominante, hein, que ce soit par exemple, on en a parlé d'ailleurs, on pourrait en toucher un mot du côté de Deliveroo, des luttes qui se sont menées notamment du côté des livreurs et des coursiers, c'est la figure de l'indépendant. Évidemment, Uber, c'est la question de l'indépendance également. Amazon, c'est aussi, Amazon Mechanical Turk, c'est aussi cette dimension d'indépendance. Ce qui me semble aussi important dans toute la constellation d'événements qui se produisent autour de des plateformes, hein, et pas seulement autour d'Amazon, c'est justement au-delà même de la question syndicale, parce que c'est la question de la résistance. C'est-à-dire que aujourd'hui, que ce soit ces travailleurs en Alabama, que ce soit aujourd'hui les coursiers à Paris ou en Angleterre, il y a des... Au demeurant, Amazon a acheté, a racheté, enfin en tout cas une part très importante dans Deliveroo. Donc il y a toute une dimension de lutte qui me semble extrêmement importante en termes de résistance et où la dimension syndicale intervient.
Benoît Berthelot, quels sont, vous parliez tout à l'heure des tracts que vous avez vus dans les toilettes des entrepôts Amazon quand les salariés, en tout cas, ont le temps d'y aller. Quels sont les arguments d'Amazon pour convaincre ces salariés de ne pas se syndiquer? C'est quoi le discours?
Alors, pour la situation donc aux États-Unis, le discours principal, c'est de dire que tous les acquis que pourrait obtenir un syndicat finalement sont déjà acquis pour les salariés, et Amazon a beau jeu de citer fréquemment le taux horaire auquel il emploie ses salariés aux États-Unis, qui est passé à $15 de l'heure, qui est deux fois le salaire fédéral minimum, selon la loi.
C'est l'objectif de l'administration Biden, d'ailleurs, hein. C'est quelque chose d'approchant, en tout cas.
Absolument, et Amazon dit aux autres entreprises, ben, chiche, faites le même salaire que nous pour vos salariés, on dit que les conditions de travail sont très mauvaises chez nous, mais regardez, les salariés ne sont pas si mal payés. Une fois qu'on a dit ça, ça ne signifie pas que les syndicats n'obtiendraient pas de meilleurs salaires, en fait, hein, puisque techniquement, vraiment, on observe mécaniquement une hausse des salaires quand les syndicats s'implantent. Ça a pu être vu dans d'autres entreprises, d'ailleurs en Alabama, chez Mercedes, où le salaire était à $15 et passé à $23, je crois. Et en fait, ce salaire, s'il a l'air important, est finalement assez peu élevé pour les métiers logistiques, pour le secteur de la logistique. Donc il faut bien voir qu'un salaire correspond aussi à un marché, qui est en l'occurrence très tendu. Amazon n'a pas augmenté les salaires pour rien, c'est parce qu'ils avaient un besoin énorme de main-d'œuvre et le turnover important qu'ils ont les conduit à embaucher, mais vraiment en permanence. Ils ont embauché 400 000 personnes rien que l'an dernier aux États-Unis. Je ne sais pas si on imagine des choses qui ne sont jamais arrivées historiquement. Hein. C'est une entreprise qui a 1 300 000 salariés en tout dans le monde. Et donc ce salaire-là, il est aussi à $15 pour une bonne raison, parce que ça sert l'intérêt d'Amazon, tout simplement.
Donna Kesselman, est-ce qu'Amazon et les autres GAFAM, je rappelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, s'inquiètent de l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden et d'un discours un petit peu moins conciliant? Est-ce qu'on voit le discours sur la hausse du salaire minimum, on vient d'en parler, voire des appels à démanteler ces mastodontes? Est-ce que l'ambiance, elle est un petit peu en train de changer aux États-Unis sur ces questions-là?
Oui, c'est très intéressant. Si vous commencez le président Biden lui-même, qui a toujours été un centriste au sein du Parti démocrate, qui était un centriste en lançant sa campagne présidentielle, mais effectivement, la mobilisation des travailleurs, la situation aussi pendant le Covid, l'a poussé à gauche, a poussé son programme à gauche. C'est vraiment intéressant. On voit aussi qu'il y a eu des réunions au Congrès contre les inégalités pendant le coronavirus et Jeff Bezos a refusé de venir parce que c'est aussi la question des inégalités qui est posée. Lui, que sa fortune a été multipliée pendant cette période. Il refuse d'augmenter les salaires et ne pas oublier, comme vous dites, hein, il n'y a pas seulement les salaires, il y a des conditions d'ubérisation du travail insupportables et on reviendra certainement tout à l'heure. Donc il y a aux États-Unis et aussi partout dans le monde des gouvernements qui commencent à s'organiser pour essayer de contrôler aussi les données de tous les GAFAM qui s'échappent au gouvernement, les impôts qui s'échappent au gouvernement. Donc il y a peut-être un tournant qui commence à s'opérer.
Patrick Saint-Golani, est-ce que vous diriez qu'on est dans une situation comparable à ce qui existait au moment des précédentes révolutions industrielles, c'est-à-dire à la fin du 19e et au début du 20e siècle? Il y avait cette tendance anti-syndicale dans les entreprises déjà, enfin cette volonté de ne pas avoir de syndicats un peu partout dans le monde?
Ah ben, de toute façon, il fallait précisément que quelque chose d'un collectif se manifeste en ce, disons, au début du 19e siècle. Mais je dirais qu'il y a quelque chose dans le capitalisme, disons, de plateforme, enfin, que ce soit Amazon ou que ce soit Uber ou Deliveroo, quelque chose qui rappelle un petit peu, enfin, et notamment chez Amazon quand même, là il faut rentrer un peu dans le détail, qui rappelle ce capitalisme un peu pénible du début du 19e siècle, avec on contrôle les salariés, également une sorte de, comment dire, d'accompagnement. Enfin, il y a toute la dimension, par exemple, très très nouvelle du GPS pour ces travailleurs, mais une dimension disciplinaire très importante, parce qu'effectivement, c'est l'algorithme, le GPS qui accompagne le travailleur.
Ce que vous voulez dire, c'est que les travailleurs de ces entreprises ont une puce GPS pour surveiller, ou pour en tout cas observer leur déplacement au sein de l'entreprise?
Non, en fait, dans les fulfillment centers, c'est-à-dire dans ces grands entrepôts dont on connaît déjà, qui se sont largement déjà développés en France également, dans ces grands entrepôts, finalement, les travailleurs sont des manœuvres qui vont chercher, on les appelle des piqueurs, ils vont chercher les articles qu'ils doivent ensuite, qui vont partir et qui vont être envoyés en colis. Et tout le processus pour aller chercher ces articles est accompagné en fait par un moniteur GPS qui indique au travailleur l'endroit où il doit aller. Et finalement, l'activité principale de ce travailleur, c'est surtout pousser son chariot, scanner l'article, mais l'ensemble du parcours qu'il doit effectuer est géré par un GPS. Hein. Donc c'est cette dimension-là, et il y a une dimension d'ailleurs de fatigue, de perte de poids, notamment lorsque les gens commencent à travailler, et également des enjeux autour disons, de problèmes musculo-squelettiques, etc. Donc il y a aussi toute ce retour d'un capitalisme qui ne fait, enfin je veux dire, qui est d'une âpreté dans le contrôle du temps, d'une âpreté dans la concurrence entre salariés, dans la mobilisation des salariés de manière concurrentielle, dans la question de la notation, etc., etc., qui justement, là, de ce point de vue-là, évoque quelque chose.
On vous entend mal, Patrick Singolani.
Évoque quelque chose de la révolution industrielle.
Très bien. Benoît Berthelot, les syndicats et peut-être plus largement les États, comme ça a été évoqué notamment à propos de la question fiscale, est-ce que toutes les structures actuelles sont suffisamment armées face à ces mastodontes économiques qui sont des entreprises mondiales?
Ils sont en train de mieux s'organiser, en tout cas. C'est assez frappant de voir qu'en Europe, les syndicats donc, sont évidemment à un stade beaucoup plus avancé qu'aux États-Unis, puisqu'ils ne sont pas encore implantés dans la plupart des GAFA. Mais en Europe, les syndicats sont maintenant unis dans une sorte de coalition européenne qui leur permet d'atteindre une échelle bien plus importante et de coordonner leurs actions. Par exemple, les grèves, les débrayages, même si c'est des actions qui sont compliquées à mener pour qu'elles aient un vrai impact, parce que, on l'a dit, les salariés ont un très fort turnover, ne sont pas forcément syndiqués, etc. Malgré tout, c'est des événements qui ont de plus en plus d'impact parce qu'ils sont coordonnés à l'échelle européenne. Les syndicats vraiment se coordonnent aussi sur la remontée d'informations, de témoignages au niveau européen. Et leurs actions ont en fait un impact grand hein, en Europe. Puisque rien que l'an dernier, donc c'est un syndicat sud qui a quelque part fait fermer les entrepôts Amazon en y dénonçant les conditions sanitaires hein, qui a entraîné la fermeture pendant un mois des entrepôts. On peut penser à la CGT qui a mené des actions qui ont conduit à la fin de la destruction des invendus. Amazon détruisait les invendus qui étaient pourtant à l'état neuf dans des bennes, jusqu'à 3 millions d'articles par an en France. Et c'est l'action d'un syndicat qui a permis d'arrêter ça. La CFDT fait changer les statuts des salariés qui sont reconnus comme caristes, voilà, travaillent au prud'homme. Donc ce travail-là, il a vraiment un impact en Europe. Amazon n'est plus la même société aujourd'hui en Europe quand même qu'il y a 20 ans. Et après, pour ce qui est la question fiscale, vous avez raison, c'est plutôt au niveau des États que ça se joue, et au niveau de la Commission européenne. Là aussi, sur ce plan-là, on peut dire que l'Europe est quand même plus avancée que les États-Unis sur à la fois la question de la concurrence. Est-ce qu'Amazon est un monopole ou pas? Est-ce qu'il est fondé à vendre des produits et à aussi héberger d'autres entreprises qui vendent des produits? Mais surtout la question fiscale, hein, c'est à la fois la Commission européenne qui en pointe et l'OCDE là sur un plan mondial.
Donna Kesselmann, sur ces questions de pouvoir des États et notamment de l'administration fédérale aux États-Unis, il faut peut-être quand même rappeler que ces entreprises financent largement les partis politiques républicains et démocrates. Est-ce que avec ça, eh bien, l'administration, quelle qu'elle soit, et l'administration Biden en l'occurrence, a vraiment la volonté d'aller contre ces entreprises?
C'est, je pense, un excellent point, très important. Vous savez, les gouvernements démocrates, traditionnellement, toujours se présentent comme les partis qui défendent les syndicats pendant la campagne, mais une fois qu'ils sont au pouvoir, ils n'ont jamais réussi à aboutir à faire passer les lois qu'ils ont promis. C'était exactement aussi le problème avec le gouvernement Obama, qui a eu une majorité plus importante que le gouvernement Biden, mais qui n'a pas réussi à passer une loi de défense du droit syndical comme c'était promis. Et donc, c'est exactement ce qui risque de se passer. Ils viennent d'avoir une loi qui a passé la Chambre des représentants et qui est arrivée au Sénat. Donc les démocrates ont voté dans la Chambre des représentants, il y a 5 républicains qui ont voté aussi, et maintenant c'est au Sénat, donc ça s'appelle le PRO Act, qui reviendrait à certaines de ces mesures antisyndicales. Par exemple, il ne serait plus légal de tenir ces réunions obligatoires pour les salariés pendant les référendums, mais il y a presque aucune chance que ça passe par le Sénat. Et effectivement, la position du Parti démocrate est très, très ambiguë. D'ailleurs, si vous regardez les dernières élections, dans la classe ouvrière en tant que telle, la classe ouvrière, c'est-à-dire qu'elle soit blanche, hispanique ou noire, il y a eu carrément une légère augmentation des votes pour le Parti républicain, pour Trump, que pour le Parti démocrate, qui, de plus en plus, le Parti démocrate est considéré comme un parti des blancs aisés, qui sont progressistes du point de vue des revendications sociétales, mais pas nécessairement des revendications ouvrières. Donc on va voir, mais effectivement, vous avez raison, le Parti démocrate est très très divisé, il y a beaucoup de modérés, voire conservateurs au sein du Parti démocrate, et d'ailleurs les démocrates n'ont pas bien réussi dans les élections des États, dans les congrès des États lors des dernières élections. Donc cette volonté ne va pas très profondément.
Patrick Saint-Gaudens, ce poids économique, notamment en termes d'emploi, il est aussi très important en France. Au moment où les entrepôts Amazon avaient fermé, au moment du premier confinement en France, Amazon mettait en avant le fait qu'il créait énormément d'emplois dans les zones où il s'installait.
Oui, alors il faut également, je pense, relativiser là le discours d'Amazon sur ce point. Mounir Majoubi d'ailleurs l'avait rappelé dans un de ses dans son dossier sur Amazon, c'est-à-dire qu'en même temps Amazon aussi a un effet de destruction des emplois qui sont justement du côté des services des détaillants, etc., et des toutes petites entreprises. Et donc voilà, il y a quand même un effet. Par ailleurs, Amazon est aussi une entreprise, enfin que ce soit en Europe et encore plus aux États-Unis, qui met en avant la robotisation et qui, pour satisfaire finalement de plus en plus la clientèle exigeante que, je mets des guillemets, mais que nous sommes, robotise de plus en plus ces entreprises de manière à augmenter le rendement. Donc il faut relativiser cette position d'Amazon qui par ailleurs en plus transforme l'emploi. J'évoquais enfin, et la nature même du travail. J'évoquais justement ces piqueurs des entrepôts. Au fond, finalement, toute l'industrie du livre, par exemple, a été transformée, qui est une industrie aussi du front office, du vendeur, enfin, je veux dire, du contact avec le vendeur, est devenue, au fond, une sorte d'industrie où, finalement, ce sont des manœuvres qui vont chercher les livres. Donc, toute la dimension d'interaction, etc., a disparu. Donc, il y a vraiment une reconfiguration de l'emploi qui est aussi provoquée par Amazon de ce point de vue-là. Et donc, il y a à relativiser son poids quantitatif eu égard à ce mécanisme. Enfin, dernier élément, il faut préciser également la part des travailleurs intérimaires dans. Alors il y a des CDI, mais il y a aussi la part des travailleurs intérimaires, puisque également Amazon va répondre à des, si je puis dire, à des moments de vente importants, que ce soit le Black Friday, que ce soit Noël, etc., etc. Donc là aussi, il y a un type d'emploi qui n'est pas d'une excellente qualité, si je puis dire.
Benoît Berthelot, la création d'un syndicat dans cette usine de Bessemer, enfin aux États-Unis, c'est une vraie crainte pour les dirigeants d'Amazon, ou c'est juste une volonté de conserver un pouvoir exorbitant?
Non, c'est une vraie crainte. Ils ont tout à y perdre, objectivement. Ce serait pas bon pour eux au niveau des salaires, au niveau surtout de la contagion que ça créerait à tous les autres entrepôts du pays. On a déjà des aujourd'hui, que cette consultation soit un succès ou pas, que l'implantation réussisse ou pas, d'autres entrepôts qui ont annoncé la volonté d'établir un syndicat. Donc jusqu'ici, effectivement, il n'y avait que des actions finalement très un peu radical de grève, ce qui est quand même exceptionnel aux États-Unis, avec des salariés qui étaient licenciés dans la foulée. Et puis c'était surtout aussi, en fait, les mouvements jusqu'ici étaient confinés au siège des grands du numérique, y compris chez Amazon. On avait vu des salariés qui dénonçaient, par exemple, la politique climatique d'Amazon, son impact environnemental énorme et le peu d'actions qui étaient faites en regard. On a des thèmes comme la surveillance, Amazon a des technologies de reconnaissance faciale, etc. Ça a été le cas aussi chez Google, d'ailleurs. Ce sont des salariés plutôt des bureaux, des cadres, des ingénieurs qui dénoncent ces politiques-là. Là, ce qui est très différent, c'est qu'on arrive aux entrepôts, on arrive au col bleu, et finalement à la plus grande masse des salariés, et vraiment à l'outil opérationnel d'Amazon. Et effectivement, je pense que c'est clairement une crainte pour eux, vu les moyens qu'ils confirment, les moyens qu'ils ont déployés contre cette implantation.
Donna Kesselman, ce serait vraiment historique. Qu'est-ce que ça changerait, au fond ?
Oui, ça sera tout à fait historique. Comme on vient de dire, ça serait un précédent, mais surtout dans le Sud. C'est intéressant parce que cette lutte est devenue symbolique, une lutte tout à fait populaire. Donc c'est devenu les Noirs qui, justement, contre le racisme, qui s'organisent dans ce Sud, qui est un désert syndical. Il y a eu du soutien de Black Lives Matter, du syndicat.
Oui, ce sont deux mouvements qui se superposent, c'est ça en fait. Deux mouvements qui sont en train de se superposer.
Exactement, des joueurs de football américain, toute cette lutte pour les droits civiques, etc. Donc c'est très populaire, mais je pense qu'il faut être prudent. Ce n'est pas la première fois qu'on a beaucoup d'enthousiasme par rapport à une élection du Sud, mais les pressions sont énormes, les menaces de l'entreprise sont énormes. Il y a quand même cette culture du Sud qui est vraiment terrible. Des gens ont peur de perdre leur emploi, donc c'est tout à fait imprévisible. Et d'ailleurs, ça va prendre certainement des semaines à voir devant des résultats. Il peut y avoir des contestations, il peut y avoir traîner le processus de part et d'autre. Ça risque de ne pas être clair du tout, donc on va voir exactement ce qui se passe.
Merci Donna Kesselman d'avoir répondu à nos questions. Merci également à nos autres interlocuteurs, Patrick Singolani et Benoît Berthelot, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination et à la préparation, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Jean-Philippe Thury. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve demain, même heure, même endroit, pour un nouveau débat du jour. Restez avec nous sur la Radio du Monde. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Quelle sera demain la vie changée?